Donc une très belle chanson de Raoul Van Hegem.
Bah oui. Oui.
Excusez-moi du blanc. Donc.
Oui, alors on arrive à la fin de l'émission. J'avais juste une dernière réaction qui peut me toucher aussi, bien évidemment. C'est par rapport à mes propres enfants qui, pour l'instant, tu vois, eux peuvent échapper encore, on va dire, au pire, si on peut dire, parce que tout simplement ils sont chez nous et parce que on est là, donc ils peuvent échapper effectivement à cette contrainte et se laisser le temps encore du choix pour le moins pire ou peut-être même pour le mieux et pourquoi pas pour le meilleur. Mais c'est une réalité, je pense, importante, si tu veux. Le fait de prendre du recul, si tu veux, par rapport à sa propre situation, pour porter un jugement global, si tu veux. Je pense je pense aussi à un copain du groupe, tu vois, qui est donc au RSA actuellement et qui est menacé donc de retourner au boulot alors qu'il a fait un choix particulier donc d'échapper au boulot avec toutes les contraintes que ça peut supposer. Mais c'est ce que je disais en début d'émission aussi, la contrainte est une réalité. La possibilité de choisir est limitée dans cette société-là. La contrainte est quelque chose de fort, de puissant, je pense, qui est une réalité. Et on doit énumérer la contrainte dans cette société-là.
Mais à mon tour, je peux revenir également sur le début de ce que je disais à cette émission, c'est que, à savoir ce qui m'avait frappé à la lecture du livre de Le Varay, d'un début à la fin, il commence et conclut le livre de cette manière, c'est-à-dire qu'il évoque même pas justement cette question de la contrainte. Il évoque le désir de partir de l'usine, il évoque que ça aurait pu être autrement, il parle de comment dire, de non il enfin plutôt non il parle pas il pose le simple constat du fait que il y aurait eu d'autres possibilités et que par une raison qui est que j'avais mis longtemps à comprendre, faut l'avouer, fait que tu restes et que tu peux pas partir.
Ben il y a tout un tas de
dont souvent les contraintes, comment dire, qui sont des réalités, qui sont des contraintes réelles, enfin le je veux dire le fric, les crédits, ou alors comment dire des choses, comment dire, qui servent plus ouvertement de prétexte, comme par exemple dans pas longtemps je serai parti, c'est juste pour quelques mois, quelques années, ou de se dire maintenant je suis trop vieux, on va finir. Servent plus de prétextes, de justifications pour alimenter justement cette peur ou cette sensation, à l'inverse d'être en sécurité dans l'usine, cette peur de dégager et le désir de se protéger en restant dans un endroit qui est tout le contraire de la protection. Exactement, comme je disais en début d'émission, ce qui est au final exactement le même sentiment qui pousse certains individus à faire exactement l'inverse, c'est-à-dire à refuser à déserter, ce qui n'est pas révolutionnaire en soi, pas plus que ça ne l'est de rester dans l'usine. C'est juste un constat, quoi.
La contrainte, moi je l'ai vécu. C'est vrai que quand j'étais jeune, effectivement, et donc que j'ai pu exprimer un certain nombre de refus comme ça. Après, j'ai eu un sentiment plus de contrainte, même si c'était lié à un sentiment de joie et de bonheur. C'est quand j'ai eu des enfants, où effectivement, là, tu ressens plus le poids de la contrainte, à savoir que tes enfants, tu veux leur donner un toit, tu veux leur donner des choses, et que cette contrainte-là appelle aussi le fait que tu vas accepter de subir d'autres choses, et ça veut dire une vie plus contraignante, ça veut dire des choix qui n'existent plus. C'est aussi une réalité. Le livre de Jean-Pierre Levaret, en tout cas, je trouve que son grand mérite, au-delà d'apporter ce témoignage, si tu veux, c'est qu'il permet de se poser plein de questions, en réalité. Plein de questions liées à sa vie, celle qu'on a, sa vie future, sa condition de classe aussi, bien évidemment, et il pose plein de questions. Il est 13h05, je vais juste finir, parce que l'objet de l'émission, c'était aussi vous donner l'envie de découvrir ou relire Putain d'usine de Jean-Pierre Levaret, par un article que j'avais écrit, c'était en 2002, c'était dans le Monde Libertaire. Après cet article, c'était le premier qui était paru sur le livre de Jean-Pierre Levaret, il y en a vu partout dans la presse, il y a eu tout un enchaînement. Jean-Pierre a écrit de nombreux autres livres aussi, et c'est assez bizarre parce que sans vraiment bien le connaître, en réalité on le connaissait de livre en livre, parce qu'il était toujours question de sa vie, de ses espoirs, et à travers aussi des articles qui étaient parus dans le journal CQFD. C'est une rubrique qui s'intitulait « Je vous écris de l'usine ». Bref, enfin, quelqu'un qu'on connaissait pas, mais dont on avait tout le temps des nouvelles à travers l'écriture. Et donc, j'avais écrit cet article pour donner envie de lire le livre, tout simplement, et puis exprimer aussi un petit peu ce qui m'avait inspiré. Le titre de cet article, qui était donc paru en avril 2002 dans le Monde Libertaire, s'intitule « Sale tôle ». Putain d'usine, le titre d'un livre et aussi sa conclusion. Entre les deux, des pages d'écriture qui racontent l'usine. Les jours, les semaines, les mois, les années qui s'écoulent. Au bout du compte, une tranche de vie. Une vie où le boulot tombe chaque jour sur l'auteur, Jean-Pierre Levaret, comme une vague de désespoir, comme un suicide, comme une petite mort, comme la brûlure de la balle sur la tempe. Chaque jour, l'usine, l'ennui, la résignation, l'amitié aussi, la mort parfois, la dignité et la joie quand éclate la grève. Jean-Pierre a écrit un livre sur l'usine et ceux qui s'y morfondent avec lui, les ouvriers. Un livre écrit par un ouvrier, autant dire que vous n'aurez pas entre les mains l'un de ces ouvrages rédigés par des spécialistes du monde du travail. Dans ces pages, vous ne trouverez ni statistiques, ni courbes, ni analyses, et encore moins le commentaire objectif et glacial du spécialiste. Non, ces pages sont vivantes, imprégnées du quotidien de l'usine et des hommes qui y travaillent. Ceci n'est pas un livre, quiconque touche ce livre touche un homme, disait le poète Walt Whitman. La littérature prolétarienne, ce n'est pas cette littérature destinée aux classes pauvres qui la plupart du temps est écrite par des bourgeois. Ce ne sont pas davantage les œuvres, d'ailleurs généreuses, où des intellectuels non prolétaires expriment leur vision de l'existence des travailleurs. Il s'agit au contraire d'une littérature de témoignages sur la vie prolétarienne, écrite par des prolétaires ou d'anciens prolétaires, ouvriers ou paysans. Un extrait d'un livre de Michel Ragon. Si l'on devait à tout prix cataloguer putain d'usine, on pourrait le rattacher à ce courant littéraire, dénigré par tous ceux qui aspirèrent à parler au nom de la classe ouvrière et qui combattirent son désir d'autonomie. La littérature prolétarienne exprima, selon les époques, l'amour de l'ouvrier pour son métier, la révolte et la grandeur de la classe ouvrière, puis, comme Jean-Pierre aujourd'hui, le dépit et le dégoût. Une vie de con, c'est ça qu'on pense quand on retire nos vêtements de travail, dans le vestiaire, assis devant une rangée d'armoires métalliques, avant de prendre la douche et de partir, enfin quitter ce lieu d'infamie. On est bien loin des discours qui visent à caresser la classe ouvrière dans le sens du poil. C'est qu'ils l'aiment tous, ces bureaucrates, staliniens, politiciens, la classe ouvrière. Mais au turbin, au boulot, à l'usine, une véritable mythologie fut construite sur le dos de la classe ouvrière. On glorifia le prolétariat pour mieux établir l'impossibilité pour celui-ci de dépasser sa condition. À bas le prolétariat, parce qu'il faut en finir avec le prolétariat comme avec la bourgeoisie, parce qu'une société libre et égalitaire est une société sans classe. En 1985, pendant le mouvement étudiant, des lycéens du Technique signèrent des tracts, les Lascars du LEP électronique. Ils énoncèrent des idées plutôt rafraîchissantes et radicales, et notamment un fameux « nous, on n'ira pas à l'usine ». Ces Lascars-là, tout comme Jean-Pierre Levaré aujourd'hui, ne se sont pas laissés aller à un vague mouvement d'humeur tout aussitôt réprimé par la conscience de la réalité des choses. Ils énonçaient un problème fondamental. Beaucoup d'ouvriers n'aiment pas leur travail, ils y perdent leur vie. Et pourtant, la société future est souvent pensée avec des usines et des ouvriers, parce qu'il faudra bien produire. Et il y a même des enthousiastes pour nous prédire une société socialiste où on bossera plus. Faut-il taire qu'il y a toujours eu une tradition de résistance ouvrière au travail, que celle-ci s'exerce bien sûr quotidiennement par tous les petits arrangements entre collègues, par un ralentissement des cadences ou par la maladie. Car si les individus nient la souffrance, leur corps ne l'oublie pas. Cette résistance s'est heurtée aux exigences du Front populaire en France et à celles de l'Espagne révolutionnaire en 1936. Tout simplement, il nous faut prendre en compte cette réalité de l'usine et de ceux qui y sacrifient leur vie. Et de la prise en compte de cette réalité découlent d'autres questions essentielles. Comment produire? Que produire? Avec quel mode d'organisation et de décision? Mais dans les plans que nous tirons pour la société future, pouvons-nous laisser Jean-Pierre Levaré et des centaines de millions d'autres à l'usine? Comme il ne se satisfera pas de des félicitations et encouragements pour sa contribution aux efforts de productivité, il pourra alors commencer à écrire son second livre, « Putain de révolution ». Voilà, c'était donc un article que j'avais écrit à l'époque et qui souligne mon enthousiasme toujours vivace pour ce livre. Voilà. Voilà, donc si vous souhaitez vous procurer ce livre, c'est disponible à la librairie Publico. Au revoir, à la semaine prochaine, vous pouvez nous retrouver sur le site anarchiste.info. Une dernière chanson, ça sera du rock. En conclusion, c'est les Sales Majestés. Au revoir, à la semaine prochaine, ça sera avec Sylvie et Nicolas et nous, Natacha, dans 15 jours.
pense. Douce France, ce pays c'est la France, jadis la douce France. Douce France, ce pays c'est la France, ce pays c'est la France, jadis la douce France. Douce France, pays de mon enfance, mon enfance, mon enfance. On sait la France.
Je n'ai pas touché la grève. Nous aurions pu devenir vieux, mais nous ne nous verrons plus sur terre et nous allons bientôt mourir. Dans 20-30 ans, la belle affaire, je ne verrai plus ton sourire. La la la.
La vie, la santé et l'amour sont précaires. Pourquoi le travail échapperait-il à cette loi ?
C'était Laurence Parizeau, présidente du MEDEF.
On te prend, on t'essore, on te jette, on te vire.
On te prend, on t'essore, on te jette, on te vire.
Tu travailles pour des miettes, en plus il faut sourire.
Tu travailles pour des miettes, en plus il faut sourire. Et ils veulent que cela soit pire, que l'on reste là sans rien dire. Ya basta, ya basta, ya basta, basta, ya. Ya basta, ya basta, ya basta.
La sécu, la retraite, bientôt des souvenirs.
La sécu, la retraite, bientôt des souvenirs.
Les loyers, c'est la fête, mais pas pour ta tirelire.
Les loyers, c'est la fête, mais pas pour ta tirelire. Et ils veulent que cela soit pire, que l'on reste là sans rien dire. Ya basta, ya basta, ya basta, basta, ya. Ya basta, ya basta, ya basta.
Les télés, les matraques disent de bien se tenir.
Les télés, les matraques disent de bien se tenir.
C'est la peur qui remplace les rêves d'avenir.
C'est la peur qui remplace les rêves d'avenir. Et ils veulent que cela soit pire, que l'on reste là sans rien dire. Ya basta, ya basta, ya basta, ya. Ya basta, ya basta, ya basta.
On te filme, on surveille tes soupirs.
On te fiche, on te filme, on surveille tes soupirs.
Orwell dans sa tombe n'a pas fini de rire.
Orwell dans sa tombe n'a pas fini de rire. Et ils veulent que cela soit pire, que l'on reste là sans rien dire. Ya basta, ya basta, ya basta, basta, ya. Ya basta, ya basta, ya basta.
Sans logement, juste bon à offrir.
Sans papier, sans logement, juste bon à offrir.
Tes deux bras, ta sueur pour nos villes à construire.
Tes deux bras, ta sueur pour nos villes à construire. Et ils veulent que cela soit pire, que l'on reste là sans rien dire. Ya basta, ya basta, ya basta, basta, ya. Ya basta, ya basta, ya basta.
Si tu veux réussir,
mort ton voisin si tu veux réussir.
C'est la rage du gagnant, il faut vaincre ou mourir.
C'est la rage du gagnant, il faut vaincre ou mourir. Et ils veulent que cela soit pire, que l'on reste là sans rien dire. La bataille.
sur le volant. Je m'étire les jambes sur le siège avant. Je m'arrange un peu les valseuses. Dans le rétro, j'ai l'arrêt douteuse. Une petite lapine dans son Austin me glisse en douce des regards de fou. Encore une fille que j'épate. J'aurais dû mettre une cravate. Pas question que je perde le feeling. Je me la prends, je la roule dans la farine. Suppose qu'un lascar veuille me doubler. J'arrive au poteau, toujours bien coiffé. J'pianote dans mes bottes, à bout pointu. Sur la radio, j'mets plus d'aigu. Encore un jet qui s'enflamme. C'est fou ce que j'ai, la banane. Question que je perds le feeling. Je me la prends, je la roule dans la farine. Suppose qu'un lascar veuille me doubler. J'arrive au poteau, toujours bien coiffé. Qui s'en balance. Et Saint-Christophe pour la prudence. J'ai la photo de mes marmots. J'aurais dû rentrer plus tôt. Je tapote nerveusement sur le volant. Je m'étire les jambes sur le siège avant. Je m'arrange un peu les valseuses. Dans le rétro, j'ai l'arrêt douteuse.
Farfadet, c'est Fred, mes grands carnassiers. Une muse un peu de dû me dit d'un air entendu, vous auriez pu vous raser. Comme je lui fais remarquer deux, trois pendus attablés qui sont venus sans cravate. Ah, vous avez remarqué. Elle me lance un œil hagard et vomit sans crier gare quelques vipères écarlates. Vampire ébloui par de lubriques vestales et géris insatiables chevauchant des valkyries. Infernales appétits de frénésie bacchanale qui charment nos âmes envahies par la mélancolie. Satyre, joufflu, bouc émissaire, gargouilleux, ému, fier, gorgone, laissez ma couronne aux sorcières et mes chimères à la licorne. Soudain les arbres frissonnent, car Lucifer en personne fait une courte apparition. L'air tellement accablé qu'on lui donnerait volontiers le bon Dieu sans confession. S'il ne laissait malicieux courir le bout de sa queue devant ses yeux maléfiques et ne se dressait un bon dans un concert de jurons disant le ton pathétique que l'état des enchères. Déjà le ciel blanchi, esprit, je vous remercie de m'avoir si bien reçu. Cochez lugubre et bossu, déposez-moi au manoir et lâchez ce crucifix. Décrochez-moi ces gousses d'ail qui déshonorent mon portail et me cherchez sans retard. L'ami qui soigne et guérit, la folie qui m'accompagne et jamais ne m'a trahi.
C'est dur comme du carton. filer comme un vieux garçon. C'est pas ma vie, c'est pas mon rêve. Laisse béton, c'est pas ma guerre, c'est pas ma trêve. Laisse béton, c'est pas ma vie, c'est pas mon rêve. Laisse béton, c'est pas ma guerre, c'est pas ma trêve. Laisse béton, le monde me saoule de son insolence. Laisse béton, les gens se couchent dans leurs apparences. Laisse béton, c'est pas ma vie, c'est pas mon rêve. Ah non. Laisse béton, c'est pas ma guerre, c'est pas ma trêve. Surtout laisse pas. Béton, c'est pas ma vie, c'est pas mon rêve.
Radio Libertaire 89.4.
Albert, Albert, on te doit la paire de Robert, que ton père est si fier et ta mère si montgolfière. Albert, Albert, embrasse donc un peu ta grand-mère, ça l'affiche en l'air des yeux verts. Ta maman s'approche et ça sera pas fastoche après ça, pour les moches et les cloches et les cajots. Tes baisers qui croquent, ça n'est pas pour les nasbrocs, tant pis pour mon froc, quand je pense à quel point t'es beau. Regarde un peu dans ta cuillère, sans déconner, j'ai mis les nouilles que tu préfères. Albert, Albert, quand on s'occupe de ton derrière, calme un peu ton hélicoptère. T'es là par hasard et pourtant Tu m'effares en riant, tu démarres en dansant, ça repart. Moi, j'avais peur du noir, on est pareil, pauvre poire. Mais je vais avoir mal aux dents moins longtemps que toi. Albert, Albert, quand tu seras grand, tu seras notaire. En attendant, tu pourrais boulotter ton dessert. Albert, Albert, y'a tes yeux qui bouffent la lumière, mais y'a tes yeux qui traînent par terre. Albert, Albert.
L'air slave, Jules l'air slave. Je suis né à Ville-d'Avray, mes parents étaient bien français, ma mère s'appelait Jeanne et mon père Victor. Moi je m'appelle Igor. Mon prénom n'évoque pas le Languedoc, plutôt moscovite, il est explicite. Quand on m'imagine, on voit un barine qui s'apprête à boire à son samovar. L'air slave, j'ai l'air slave. Et ça me poursuit depuis tellement longtemps que je suis devenu slave malgré moi et sans m'en apercevoir. L'âme slave. J'ai l'air slave. J'ai jamais été plus loin que la barrière de Pantin. Tout ce que j'ai de russe en moi c'est le prénom, mais ça suffit bien. Oui, à force d'entendre tous les gens me prendre pour russe authentique, j'en ai tous les tics. J'habite de sa couche, je bouffe des pioches, je bois de la vodka au milieu des repas. L'âme slave, j'ai l'âme slave. Je suis tellement influencé par mon prénom qu'à toutes les fenêtres de la maison je viens de faire mettre des rideaux de fer. Mais je les laisse ouverts, j'ai l'âme slave.
Ouais.
Oh,
Cellophane, perfusion, supermarché, dissection, vide sidérale 2.0, adada sur les ados. Monopole, du bon goût, des people, je bande de mou. Arrière-cour, liquidation, cerveau liquide, extrême onction. Une prière, notre père, sors des cieux, bouge tes cheveux. Fais de moi ce que je ne suis pas, je crie hasta la victoria. Tu vas t'éter, peroxydé, je t'aimais, j'étais drogué. Monde de la nuit, force de vente, fais du bruit pour les clientes. Payback, orchestre, mégahertz, royalty.
Le vieux menteur a quitté le pouvoir. Et le peuple souverain, appelé à voter, a choisi Liz Nogood, le teigneux à l'œil noir, pour marcher à sa tête, pour le représenter. Et le peuple souverain, chapeau la clairvoyance, par sa majorité librement exprimée, l'a jugé respectable et méritant confiance, et digne qu'on le suive, et digne d'être aimé. Douce France. Ainsi le Matamor et ses rodomontades se retrouvent enfin calife, des années qu'il se pousse, qu'il intrigue et grenouille, planqué en embuscade, prêt à tout pour devenir le premier d'entre tous. C'est une vie d'ambition qui est couronnée ici, marquée par le mensonge et le mépris des lois, où la trahison est une pratique établie, où les promesses n'engagent que celui qui les reçoit. Douce France! Ainsi le familier des salons milliardaires, le partisan de toujours des inégalités, l'empêcher d'entrer dans les quartiers en jachère par un tour de passe-passe, hop là, aurait changé. Dissimulant ses crocs, le voilà qui se pose en héritier des justes, en agneau patelin. À peine s'il porte pas à son revers une rose, et le public baba applaudit des deux mains. Douce France! Ainsi dans le camp d'en face, les éléphants barissent et poussent des cris de baronnes effarouchées, alors qu'ils sont semblables et compères et complices, plus une once d'audace, plus l'ombre d'une idée, et les ondes flagornent et la presse est muette, je veux dire qu'on y voit guerre d'indignation. Ça n'a rien d'étonnant, puisque toutes les gazettes, ou quasi, appartiennent aux marchands de canons. Douce France! Ainsi les renégats viennent à la gamelle, sans vergogne à la soupe, les plats en rang serré, arrivistes et faux culs se ramassent à la pelle, le spectacle est superbe en même temps qu'à pleurer, et le cowboy obtus dans sa marche à la guerre, bénissant le dieu bon compte un allié de plus, pleurer les démunis, crever les pauvres hères, voici le temps des brutes, le temps des parvenus, la pauvre consolation que l'on pourrait avoir, mais je ne sais s'il y a lieu de rappeler ça. C'est que si le peuple est encore un couillon dans l'histoire, un cornard, un cocu, un porteur de grands bois, il l'est pour cette fois, pas tout seul dans ce cas. Douce France!
Je cherche le service que je dois demander pour trouver le bureau qui pourra m'indiquer le guichet où je peux retirer, s'il vous plaît, une demande de dossier. J'ai perdu mes papiers. Continuez ce couloir et prenez l'escalier. Vous montez tout en haut, après vous demandez. Si jamais y a personne, ce sera indiqué au panneau d'affichage près du bâtiment B. Près du bâtiment B, près du bâtiment B, près du bâtiment 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 B. Près du bâtiment B, près du bâtiment B, près du bâtiment 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 B. J'ai rêvé d'une île. Comme on rêve une île.
doucement balancé, rêvassant nonchalant, vanille et vainé.
Poussez pas, ça fait pas avancer. Dites madame s'il vous plaît, j'ai perdu mes papiers. Ah le chef de service est parti déjeuner. Demandez donc en bas, tout en bas dans l'entrée. Pour y aller c'est tout bête, vous verrez c'est marqué. Mais passez par derrière, par devant c'est fermé. Vous tombez tout au bout du premier rez-de-chaussée. Et c'est la dernière porte, pouvez pas la manquer. Pouvez pas la manquer, pouvez pas la manquer. La manquer, pouvez pas. Pouvez pas la manquer, pouvez pas la manquer. La manquer, pouvez pas. J'ai rêvé d'une île,
oui.
Loin des clubs à bronzer,
oui.
Sans géo débile,
oui.
Ni PDG blasé,
oui.
Nager dans une eau d'huile,
oui.
Mais pas d'huile à cargo,
oui.
Et mâchouiller tranquille,
oui.
Figuement gabogo. Dépêchez, dépêchez, on va bientôt fermer. Aidez donc vous devant, là, faut pas vous gêner. J'ai ma femme qui m'attend, là moi j'ai mal garé. N'êtes pas le seul qui est pressé, n'êtes pas le seul à bosser. Nom, prénom, profession, papier d'identité. Crusoe et Robinson, j'ai perdu mes papiers. Ah vous dites-moi tout de suite de qui vous vous foutez. Les petits malins comme vous, nous on sait les mater. Nous on sait les mater, nous on sait les mater. Les mater, nous on sait. Nous on sait les mater, nous on sait les mater. Les mater, nous on sait. Nous on sait les mater, nous on sait les mater. Les mater, nous on sait. Nous on sait les mater, nous on sait les mater. Les mater, nous on sait.
La bonne température pour soigner les engelures. Ton corps tiède et poli a les formes rebondies d'un galet sur la plage et il me met en nage. L'eau gèle dans le caniveau, la neige tombe en silence, l'hiver est en avance. Je me glisse sous tes vêtements pour faire circuler le sang. Je caresse de bouillotte sous ta petite culotte. Je n'ai plus peur du froid, serré tout contre toi. Fait chaud comme en été, l'hiver s'en est allé.
père s'en est allé.
C'est dans le sang, on aurait dû le pendre à un croc de boucher. Le chat se fait virer par un vieux puritain, sorti du Moyen-Âge, lançant des anathèmes. Planqué près de Paris et le bon peuple l'aime. Le rêve communiste pourri dans les goulags, le rêve d'Israël est mort dans la haine. Des jeunes gens par milliers se tournent vers le chimique, le rêve hypodermique nous kidnappe les meilleurs. C'est bon faire. Parfois je me réveille et je me dis pourquoi faire. Je regarde ébahi la grosse face bouffie d'un de nos dirigeants qui remplit tout l'écran. On dit qu'à 40 ans un visage dit tout. Ce que je vois sur le sien me donne des boutons. Il est content de lui, tout va bien, c'est la joie. Ceux qui grognent sont de mauvais esprits. À l'Est, rien de nouveau, les villes de Lorraine deviennent villes mortes pourrissant de colère. Les cheminées qui fument passeront des souvenirs. Les chômeurs désœuvrés vont parfois se balader devant les grilles fermées à l'ombre des terrils. Les milliards sont partis là où c'est beaucoup plus rentable. Un petit moment casquette lève les bras bien haut. Derrière lui un nazi satisfait sûr de lui. Lui braque dans le dos son flingue indifférent. Le visage de l'enfance et la terreur du monde. L'innocence violée, l'humanité bafouée. La gueule du pourri c'est l'abus du pouvoir. L'éternelle saloperie tout pouvoir est maudit. Je pourrais être l'enfant, je pourrais être le nazi. Quel est le dieu vicieux bien planqué dans les yeux qui décide de tout ça, qu'on lui tire la barbe, qu'on lui crève les yeux, qu'on le balance au néant. Joue pas avec mes nerfs, j'ai un flip de travers, une arête dans le gosier, je peux plus respirer. Plein de trucs me sidèrent. J'ai beau dire, j'ai beau faire, parfois je me réveille et je me dis pourquoi faire. Un jour ça prévient pas, on se réveille vieux. On se réveille vite, des rides autour des yeux. Des sanglots plein la gorge qui pèsent comme des pierres. Un jour ça prévient pas, on se retrouve seul. Les amours sont partis, on n'a pas su aimer. On en voulait plusieurs, on n'en a plus aucune. Il faut n'en aimer qu'une et choisir ou partir. On a l'amour bizarre, on sait pas l'exprimer. Les voisins se font la guerre et ne se parlent pas. Au sous-sol c'est le négro, au premier c'est le cateau.
au second c'est le coco, au troisième c'est le PR, au dernier c'est le PD, on est tous à enfermer. Je joue pas avec mes nerfs, j'ai un flic de travers, une arête dans le gosier, je peux plus respirer. Plein de trucs me sidèrent, j'ai beau dire, j'ai beau faire, parfois je me réveille et je me dis pourquoi faire.
Il y a toujours des malsains, quelles que soient les époques. Pour se dire nom d'un chien, qu'est-ce que c'est cette galère. Il y a toujours un malin pour ramener sa gueule, pour penser, pour chanter que tout le désespère, que vraiment ça va mal, que c'est l'époque charnière, qu'après ça rien ne va plus, que personne n'en peut plus. Pourtant ça continue, c'est ça qui est fantastique. Ça fait des millénaires qu'on respire le même air, qu'on se tire dessus comme des élastiques. Que ça naît, que ça meurt, que ça crie de douleur. Et nous là-dedans on vit, on salue, on sourit. On n'est pas des bestiaux, non, le monde est vraiment beau.
Radio Libertaire 89.4.
Ici à Sfax, ici à Sfax. Hierasus, Hierasus. Demain Paris, demain Paris. Aucun cadran n'affiche la même heure. Aucun amant ne livre la même humeur. À nous des lignes, à nous des lignes. Hierasus, Hierasus. Aucun amant n'affiche la même heure. Aucun cadran ne livre la même humeur. À nous, New York.
Hier-Assus, Hier-Assus. Demain Paris, demain Paris. Aucun cadran n'affiche la même heure. Aucun amant ne livre la même humeur. À l'intérieur, à l'intérieur. Coule la Garonne, coule la Garonne. Pas un amant n'affiche la même heure. Aucun cadran ne livre la même humeur. À nous Delhi. Hier-Assus, Hier-Assus. Aucun cadran n'affiche la même heure. Aucun cadran n'affiche la même heure. Aucun cadran n'affiche la même heure. Aucun amant ne livre la même humeur.
Qu'est-ce qu'on fait?
Et si je poussais une longue plainte déchirante pudiquement cachée sous la morsure cinglante de mon humour ravageur?
Encore faudrait-il que je croie en un combat.
Bien sûr, si j'avais cette hargne mordante des artistes engagés qui osent critiquer Pinochet à moins de 10 000 km de Santiago. Mais je n'ai pas ce courage. Je suis le contraire d'un artiste engagé. Je suis un artiste dégagé. Je peux pas être engagé, à part la droite, il n'y a rien au monde que je méprise autant que la gauche. Puis d'abord, quelle gauche? La gauche gluante d'humanisme sirupeux des eunuques à la rose? Quelle droite? La droite du fumier où la rose est éclose? Non mais quelle gauche? Vous prêteriez votre peigne à Marchais, vous?
Notez que Marchais, je ne l'accable pas. C'est un homme qui s'est fait tout seul, malgré une inculture et une pauvreté d'esprit qu'on ne rencontre plus guère que chez les animateurs de Radio Libre.
Un homme qui a fait une carrière politique remarquable en restant persuadé toute sa vie que Marceau, Berthier et Périphérique étaient des maréchaux d'Empire. Soyons pas anticommunistes primaires, camarades. Chers amis, pardon.
D'autant qu'il suffit de lire une seule fois Karl Marx pour devenir aussitôt anticommuniste secondaire.
C'est vrai, je sais pas si vous avez lu Le Capital, mais c'est emmerdant.
Oui, écoutez, Le Capital, c'est comme l'annuaire. Hein. On tourne trois pages et on décroche. Hein.
Mais comprenons-nous bien, je ne prêterai pas mon peigne à Marchais. Mais je donnerais pas non plus mes poux à Le Pen. Il serait capable de les torturer, ce con. Mais cet homme n'est pas humain. Je suis sûr qu'il y a plus d'humanité dans l'œil d'un chien quand il remue la queue que dans la queue de Le Pen quand il remue son œil.
En fait, vous lisez Minute. Vous avez tort, c'est intéressant. C'est un journal qui a au moins une qualité, c'est très avantageux. Si. Tenez, au lieu de vous emmerder à lire tout Sartre, hein, vous achetez un exemplaire de Minute, pour moins de 10 balles, vous avez à la fois la nausée et les mains sales. Et les aventures de Pinochet quand il était petit. Pinochet qui est un grand enfant. D'ailleurs, dans Pinochet, il y a Hochet. Ni de gauche, ni de droite. Qu'on soit de gauche ou de droite, on est hémiplégique, disait Raymond Aron, qui était de droite. Je suis un artiste dégagé.
Ce qui ne veut pas dire que je ne ressens pas les problèmes de mon époque, avec la même acuité de cœur que n'importe quel pourri de gauche ou de droite qui se précipite à la télévision chaque fois qu'un drame social lui permet de montrer son émotion à tous les passants. Dégagé, oui. Indifférent, non. Les injustices sociales me révoltent. Ne changera-ce donc jamais? Du verbe changer que suit un trait d'union précédant le démonstratif « se ». Ne changera-ce donc jamais? Pourtant, quand on y réfléchit bien, les aspirations des pauvres ne sont pas très éloignées des réalités des riches. Les riches, après tout, ne sont jamais qu'une minorité de pauvres qui ont réussi. Les riches forment une grande famille, un peu fermée, certes, mais pour peu qu'on les y pousse, je suis sûr que les pauvres ne demanderaient pas mieux que d'en faire partie. Bien sûr, il y a une certaine réserve dans le comportement revendicatif des pauvres qui les retient de s'exprimer dans ce sens, mais vous savez, quand ils réclament du bout des lèvres une augmentation de salaire de 10%, qui nous dit qu'en réalité, ils préféreraient pas 20, 30, voire 50%? Et c'est à nous, les nantis. Je parle aux gens des trois premiers rangs. C'est à nous, les nantis, qu'il appartient d'aider nos frères les plus démunis à s'intégrer dans nos rangs. Prenons-y garde, frères riches. La coupe est pleine. La colère gronde au sein des masses. C'est véritablement un scandale. Et probablement une contre-pétrie. Il y a des abus qui ne sont plus tolérables. Moi-même, quand j'analyse avec lucidité et honnêteté mon propre cas, croyez-vous qu'il m'arrive de ne pas avoir honte? Quand je pense qu'en une soirée, je gagne l'équivalent de 3 mois de salaire d'un ouvrier, alors que dans le même temps, à 3 pas d'ici, en ce moment même, Guy Bedos gagne l'équivalent de 6 mois de salaire d'un cadre. Hein? Les solutions, elles existent. Il suffit de prendre aux riches pour donner aux pauvres, et vice-versa. En temps de paix, par exemple, les riches auront le droit de prendre la sueur au front des pauvres, et en temps de guerre, les pauvres auront le droit de prendre la place des riches, au front également. Il me semble qu'avec mes idées généreuses, je ferai un assez bon président de la République. Hein? D'ailleurs, j'en ai parlé à la mère de mes enfants, je lui ai dit « Tu ne trouves pas que j'ai l'étoffe d'un chef d'État ?» Et puis, j'ai le bras long. Elle m'a dit, bah écoute, si t'as l'étoffe et le bras long, tu coupes les manches, ça te fera un petit boléro.
Je suis du temps du tango, même les durs étaient dingos de cette fleur du guinche exotique. Ils y paumaient leur énergie, car abuser de la nostalgie, c'est comme l'opium, ça intoxique. Costume clair et chemise blanche dans le sous-sol du Mikado. J'en ai passé de beaux dimanches. Des belles venaient en avalanche et vous offraient comme un cadeau. Rondeur du sein et de la hanche pour qu'on leur fasse danser le tango. Ces mômes-là, faut pas vous tromper, c'était de la belle petite poupée, mais pas des filles ni des modèles. Mesdames, quand on a travaillé 6 jours entiers, on peut se payer d'un cœur léger une fin de semaine. Si par hasard et sans manière le coup de béguin venait bientôt, elle se donnait, c'était sincère. À ce que les femmes ont pu me plaire, et ce que j'ai plu, j'étais si beau. Faudrait pouvoir faire marche arrière comme on le fait pour danser le tango. Des tangos, il y en avait des tas, mais moi je préférais Violetta. C'est si joli quand on le chante, surtout quand la boule de cristal balance aux quatre coins du bal tout un manège d'étoiles filantes. Alors c'était plus Valentine, c'était plus Loulou, ni Margot, dont je serrais la taille fine. C'était la reine de l'Argentine, et moi j'étais son Hidalgo. Oeil de velours et main câline, à ce que j'aimais danser le tango.
mais doucement passent les jours. Adieu la jeunesse et l'amour, les petites mômes et les je t'aime. On laisse la place et c'est normal, chacun son tour d'aller au bal. Faut pas que ça soit toujours au même.
Le cœur, ça se dit corazón en espagnol, dans les tangos.
Et dans mon cœur, ce mot résonne. Et sur le boulevard, en automne, en passant près du Mikado, je ne m'arrête plus, mais je fredonne. C'était battre le temps du tango. C'était battre le temps du tango.
Elle m'avait dit, viens donc à la maison, je te ferai des trucs super sous les orteils. J'avais un peu aperçu ces nichons, il y en avait deux, et en tout point pareil. L'impétueux petit bâton n'est pas toujours de bons conseils. L'impétueux petit bâton n'est pas toujours de bons conseils. Elle m'avait dit, tu fais des belles chansons, faut jamais croire à des conneries pareilles. Je me suis retrouvé privé de mon pantalon et m'agitant dans le plus simple appareil. L'impétueux petit bâton n'est pas toujours de bons conseils. L'impétueux petit bâton n'est pas toujours de bons conseils. Quand j'eus assez tripoté ses nichons, je fus soudain surpris par le sommeil. C'est alors qu'elle s'en prit à mes bonbons, me les cassa ainsi que les oreilles. Maman, les petits bâtons. Je dus alors un peu changer de ton. Il fallait faire comprendre à la groseille que je m'en retournais à mes moutons, que je voulais plus personne sur mes orteils. L'impétueux petit bâton n'est pas toujours de bons conseils. L'impétueux petit bâton n'est pas toujours de bons conseils. Oh et les filles, oubliez ma chanson dans cette histoire, c'est moi qui suis l'andouille. C'est bien connu, pour payer un frisson, il faut parfois se sentir un peu nouille. L'impétueux petit bâton n'est pas toujours de bons conseils. L'impétueux petit bâton peut vous tirer dans bien des embrouilles.
Qu'aurais-je trouvé? Vivre est un village où j'ai mal rêvé. Je me sens pareil au premier lourdeau qu'encore émerveille le chant des oiseaux. Les gens de ma sorte, il en est beaucoup. Savent-ils qu'ils portent une pierre au cou? Au bout de mon âge, qu'aurais-je trouvé? Vivre est un village où j'ai mal rêvé. Pour eux, les miroirs, c'est le plus souvent, sans même s'y voir qu'ils passent devant. Ils n'ont pas le sens de ce qu'est leur vie. C'est une innocence que je leur envie. Au bout de mon âge, qu'aurais-je trouvé? Vivre est un village où j'ai mal rêvé. Quand pour le plaisir que la poésie, je croyais choisir et j'étais choisi. Je me croyais libre sur un fil d'acier, quand tout équilibre vient du balancier. Au bout de mon âge, qu'aurais-je trouvé? Vivre est un village où j'ai mal rêvé. Il m'a fallu naître et mourir s'ensuit. J'étais fait pour n'être que ce que je suis. Une saison d'homme entre deux marées, quelque chose comme un champ égaré. Au bout de mon âge, qu'aurais-je trouvé?
vivre est un village où j'ai mal rêvé.
Je viens de renaître, ce soir tu te penches sur moi. Ah, c'est si bon parfois de naître, plus rien ni adulte ni roi. Félicie, je reviens ma douce, d'une fugue de 20 années. Je reviens, je suce mon pouce, tu m'as déjà tout pardonné. Félicie, dis-moi ces histoires, ces histoires qu'on ne compte plus. Moi je ferai semblant d'y croire, et toi d'y avoir toujours cru. Félicie, je viens de renaître, ce soir tu te penches sur moi. Ah, c'est si bon parfois de naître, plus rien ni adulte ni roi. Félicie, reine en ta cuisine, Félicie en robe de pilou, au poignet des bracelets de farine, un col Claudine blanc à ton cou. Félicie, l'automne te pousse, je vais te donner mes bourgeons pour reverdir les herbes rousses que j'ai plantées dessus ton front. Félicie, si l'hiver t'entraîne, à quoi me servent mes printemps? Félicie, attends, je t'emmène, tu vois, je suis là comme avant. On ira s'asseoir sous le chêne, à regarder passer les grands. Félicie, je t'aime, je t'aime. Félicie, Félicie. Maman.
La sienne à lui qui ne mettait rien. Elle était blanche sous les feuilles et légèrement lézardée. Comme elle me faisait de l'œil, moi je m'y suis attardé. Sous la pierre, que fis-tu sous le chaud soleil d'hier? Souriais-tu quand on ferme tes paupières? M'entends-tu? Cette tombée était ancienne. Elle dormait sous le lilas. Cette tombe était la sienne, et moi je passais par là. D'épitaphe et de grand deuil, elle n'était plus trop fardée. Elle m'adressait un clin d'œil, alors je l'ai regardée. Qui est-tu, toi? toi qui dors là sous la pierre. Que fis-tu sous le chaud soleil d'hier? M'entends-tu, toi que berce la poussière? Qui fus-tu? Brave type qui t'embrasse quand il part. Je fus le prototype de tous les salopards. Je fus un ambitieux qui manqua d'ambition. Je fus un vrai vicieux comblé de fellation. Je fus un acrobate qui chuta du trapèze. Je fus un psychopathe, je fus celui qu'on plaise. Je fus tué dans mon bain par électrocution. Je fus un jacobin sous la révolution. Je fus bourgeois sublime, gorgé de petitesse. Je fus cet anonyme qu'on pleure par politesse. Je fus sanguinaire Joe qui fit 30 ans de bagne, ouvrier chez Peugeot, héros sous Charlemagne. Je fus l'ami d'un chien qui creva sur mon cœur. Je fus un chirurgien, un putain d'arnaqueur. Je fus un érudit, fier de son étendard. Je fus un abruti qui rêva d'être une star. Je fus un mousquetaire, autant les fleurs de lys. Moussaillons solitaires sur le berceau d'Ulysse. Je fus ma vie durant, joueur de flûte à Orthez. Je fus un conquérant dans l'armée de Cortés. Je fus qui s'en douterait, fabricant de boutons. Je fus berger distrait qui perdit ses moutons. Je fus moine en Asie, Bouddha me fit voir clair. Je fus soldat nazi dans le siècle d'Hitler. Je fus un écrivain mort de n'avoir pu naître. Un amateur de vin fustigé par les prêtres. Je fus un amoureux qui n'eut jamais de chance. Je fus un con fiévreux, je suis mort pour la France. Enfin je fus ton frère. Ton frère, enfin je fus ton frère, toujours ton frère. Cette tombe était la sienne en ce jour. Demain, cette tombe, elle sera mienne. C'est la ronde des humains.
Radio Libertaire 89.4.
Chaque fois qu'éjacule le fascisme ordinaire, celui qui rend le sourire aux actionnaires, terrorisé par les anarcho-autonomes qui voudraient libérer les déviants du génome. On voit disparaître le plaisir de l'instant, remplacé illico par la terreur d'un présent et d'un futur qui se rêve au passé, privé des imprévus qui les font angoisser. Torride passion qui toujours aboutissent au plus profond de bien étranges abysses. L'amour de la mort et la mort du père, alors qu'enfin soumis les vaincus désespèrent, servile supplétifs forgeant leur propre chaîne. Il ne faut pas compter sur eux pour la prochaine, la révolution ou même la révolte. Comme ils ne sèment plus le néant, les récoltes. Rien n'a changé, ni les mots ni les choses. La talente affronte encore les mêmes névroses. La voix de son maître admire extatique la médiocrité d'une fiction pathétique. Comme l'impuissance règne, il faut brasser de l'air. et flagorner le peuple pour noyer sa colère. L'identité du clan devient l'unique urgence. Les parano parades promettent la vengeance quand ils répandent la vérité cathodique à grands coups d'unité de bruit médiatique. Ils renforcent encore l'ignorance disponible, transplantant l'imposture dans le cœur de leur cible. Naïfs, bâtissant les murs de leur prison, fiers d'être devenus leur propre maton. Les aliénés dociles tournent en rond et au pas dans des cellules grises dont on ne s'évade pas. Comment décrire ces charognards qui racolent, les losers exsangues abrutis par la picole, le cerveau vitrifié par les psychoactifs. Devant un tel cynisme, je manque d'adjectifs. Ces dealers d'illusions collabos du système et leurs marionnettes psalmodiant l'anathème se croient illégalistes quand ils sont l'attraction produite par la police et par la réaction. La pauvre crasse prétend ouvrière dans la bouche mythomane de hableurs bipolaires. Les rebelles factices cachent derrière leur profil des amoureux foulés de poseurs homophiles. La haine de soi se regroupe en tribus qui parlent fort des exploits qu'elles s'attribuent. Pourtant c'est le suicide qui guette solitaire ces clones décérébrés par la logique militaire. Quand je dis non, je ne renonce pas. Me taire, serrer, laisser croire que je ne juge pas. La conscience éveille avec la révolte, celle qui concrétise la colère qu'on récolte. Mais si penser, c'est déjà désobéir. Nos seules intentions ne permettent pas d'agir. Il manque encore le courage et l'intelligence qui nous donneront la force de répondre à l'urgence. En choisissant la vie contre le sacré, c'est avec joie que nous allons blasphémer, nous délivrer de Dieu pour délivrer le monde et détruire les gamètes de la bête immonde. Ce n'est pas seulement la vie que nous voulons, c'est également son sens et ses raisons. Et que je sois une femme ou un homme, je me révolte, donc nous sommes.
Mâchons, mâchons, main dans la main, mineurs boliviens et chiliens. Mâche, mâche le cola, mâche, mâche bien, cette bonne drogue qui enlève la fatigue et la faim. Mâcheront, mâcheront, pour tenir 24 heures de rang. Puis après 12 heures, on se reposera. Faut pas perdre le rythme, ha, ha, ha. Ils tiendront pas plus de 4 ans. Qu'il dit le toubib de Noël Godot. Ça fait rien. D'ici là, la mine sera épuisée. Mais nous, les jeunes loups, on en aura bien profité. Peña Cola, Peña Cola, grâce au cola. Merci Cola. Recruté sur place, résolument tourné vers l'avenir. Risque réfléchi, technologie en pointe. On s'en goûte pour ces jeunes loups sous la houlette du baron de Roth. Main dans la main avec le Guy. Ils affinent, libèrent nos paysages. À côté des cimetières de voitures, de ces déchets, ces tas de vieilles batteries qui imprègnent les sols de plomb oxydé et sulfaté. C'est pas pareil pour les ouvriers, ils sont habitués. Et puis, c'est des étrangers. Alors etc. Viva Cola!
Et ben au 01 43 71 89 40 sur Radio Les Lignes Libertaires, la radio de la Fédération Anarchiste et Urbi comme Orbi, sans sponsor ni publicité. Alors pour vos cartes de soutien, vos cartes d'auditeur, une seule adresse, Librairie du Monde Libertaire, 145 rue Amelot, c'est dans le 11e arrondissement, métro République ou Fille du Calvaire, et c'est ouvert du mardi au samedi à partir de 13h et le samedi un peu en fin de matinée. La très jolie voix qu'on a entendue là, un tout petit peu, bon, on la connaît maintenant puisque c'est le générique, c'est Tita Nzebi, c'est magnifique, on est bien sûr Onde de Choc, effectivement, monsieur Tison, vous connaissez, c'est l'émission qui peut faire et défaire les carrières à loisir, ça vous le savez, hein, voilà, monsieur Dauphin, oui, pardon, à la bon absolu, non mais il est là avec nous, c'est pour ça,
et on le représente,
je revendique mon lapsus là, Odile Navas.
Bonjour,
vous êtes bien là, voilà. Et puis attention, en cabine, vous n'avez pas n'importe quoi à la technique, c'est Monique. Ah bah c'est Monique. Tout le monde la connaît dans le monde. Et le pire, c'est vrai, parce que tout le monde me demande où elle est.
La reconnaît.
Donc, effectivement, j'ai dit Monsieur Tison, parce que Monsieur Tison nous a quitté. C'était qu'en fin.
14 novembre.
Hein, il avait quel âge, Monsieur Tison?
51 ans.
Parce que moi, c'est tombé comme ça, j'ai eu la nouvelle, paf!
Nous aussi, même si effectivement, c'est venu à petit feu.
C'était quand même pas une nouvelle tout d'un coup qui nous a surpris. On a senti venir, ça faisait mois, voire des années qu'on sentait venir les choses. Que c'était quand même un glissement progressif.
Non, pas du plaisir.
Et vers une mort qui était de plus en plus certaine et qu'il n'a pas cherché à retenir.
Il est mort de quoi? Puisqu'on me l'a demandé. Hein.
Il est mort d'alcoolisme.
D'alcoolisme.
Les conséquences de tout ça, voilà.
D'accord.
Voilà.
Alors pourquoi je fais l'émission? Parce que par amitié aussi, bien sûr. Je fais l'émission aussi parce que au niveau poétique, et de la littérature, c'est ce qu'on fait est excellent. Oui. Vraiment, là, ça fait longtemps que je n'ai pas trouvé un texte aussi bon que
Absolument.
Celui-là. Oui, aussi parce que je l'ai reçu plusieurs fois.
Quatre fois même. Sa mère Catherine me faisait remarquer, parce que j'ai signalé l'émission à Catherine, donc la mère de Frédéric, qui nous écoute. Et moi, j'étais resté sur deux fois, parce que je me souviens qu'il nous avait accompagnés deux fois, mais sa mère, donc Catherine, dit quatre fois.
Moi, je l'ai reçu pour Salon Silène, éditions.
Donc quatre fois, il est venu quatre fois dans à l'antenne.
C'est toujours de la quatrième, non?
Enfin, je fais aussi cette émission pour deux raisons, et après on va commencer à plonger dans le sujet. J'ai un ami qui est chauffeur de taxi, ça arrive, c'est Dauphin, et il écoute en direct, généralement quand il peut... L'émission, quand il peut pas, et ben il repique le soir sur le podcast. Alors maintenant, vous savez qu'avec la technique, on est entendu aux quatre coins du globe. Faut pas rigoler avec ça. Là. Et je me disais que c'est Marcel. Marcel est en train de rouler là. Il proteste tout le temps parce que quand on fait une émission, c'est de la littérature, pas des textes faciles. Il y a toujours un bus qui déboîte. Il y a toujours un mec qui klaxonne ou voilà. Et là, je me disais, là, on va commencer comme ça. Et quand Frédéric Tison, dans Salon Silène à l'Harmattan, écrit « Mais aussi, quel est ce rire? Silène éclate d'un rire qui n'est pas tout à fait de la gamme de nos rires humains. Ce n'est pourtant pas un rire négatif, comme l'on peut parler d'une théologie négative. Il ne se définit pas seulement par ce qu'il n'est pas. Certes, ce n'est pas un rire gras. Oh, Silène éclate volontiers de ce rire aviné des ivrognes. Mais dans ce rire un peu pâteux, il y a une danse légère. »